Nous allons revenir maintenant sur la mort de Louis, cet adolescent de 17 ans. Il a été tué le 20 juin dernier, un lynchage mortel par 5 autres jeunes à Narbonne. Il y avait des mineurs, des majeurs. Le père de Louis était ce matin interviewé par Apolline de Malherbe en direct sur BFM TV. Il est entre chagrin et colère.
Le 12 juin, en fait, il a été au commissariat pour se réfugier après qu'il avait pris son chaos qu'on a vu à la télé. Mais en fait, il n'a même pas déposé plainte. C'est pour ça que je ne suis pas au courant. Il a été, mais il n'a pas voulu pour ne pas avoir de représailles. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été informé que mon fils était harcelé. Sinon, j'aurais dit de rester au foyer, de ne plus bouger, ou je l'aurais récupéré, ou je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a des adultes qui vous avaient alerté? Est-ce que vous aviez eu avant?
Non, jamais personne.
Jamais personne. L'aide sociale à l'enfance, personne, aucun de ses animateurs ne vous avait appelé avant?
Non.
Personne.
Comme si on n'existait pas, quoi.
Un témoignage bouleversant, hein, le père de Louis ce matin sur BFM TV.
La tante de Louis, notre invitée ce soir, Marie-Julie Marteau. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi tant de haine? C'est la question que posait ce matin le papa de Louis. Cette question, vous la posez?
On se la pose. Après, je pense qu'il y a réellement un ensauvagement de la société. Ce qu'on a vu, nous, famille, parce que ma sœur a été préservée évidemment de ces vidéos, mais ce qu'on a pu voir, c'est innommable. Les vidéos qu'on a visionnées, il n'y a aucune conscience. Il rit, il le tabasse à mort.
Ils sont cinq?
Ils sont cinq. Il ne lui laisse aucune issue. Et en fait, il ne s'arrête pas. Les coups pleuvent. Sous des ricanements, sous des selfies. Honnêtement, on n'a pas les réponses aujourd'hui.
On a entendu ce matin le père, vous êtes la sœur de la mère de Louis.
Oui,
Et la marraine.
Et la marraine, et comment va-t-elle? Dans quel état est-elle aujourd'hui?
Elle est dans un état de sidération totale, mais elle est très forte, elle est extrêmement digne. Elle réserve sa parole, qui viendra bientôt. Lors de la marche de dimanche prochain.
À Narbonne, une marche qui est organisée.
Ouais, à 11h à Narbonne, qui s'appellera la dernière marche. Ma sœur souhaite aussi que Louis soit le symbole de tous ces enfants massacrés, dont personne forcément ne parle suffisamment. Et oui, elle est...
C'est pour ça que vous prenez ce soir la parole, c'est pour ça que son père prend la parole, c'est pour ça que sa mère prendra également la parole.
Exactement. Quand c'est arrivé, le premier article est sorti sur Louis, parlait d'une rixe. On en a eu connaissance, on était à l'hôpital. En fait, c'était tout sauf une rixe. C'était un lynchage.
Un guet-apens, dit le procureur de Narbonne.
Bien sûr, c'était une mise à mort. On a tout de suite...
Donc c'était prémédité.
En tout cas, les faits vont être qualifiés, parce que quand ils ont été arrêtés, c'était tentative d'assassinat.
Exactement.
Louis est décédé entre-temps. Donc pour l'instant, on attend la requalification des faits. Mais en effet, oui.
On essaie de comprendre le parcours de Louis. Que faisait-il dans ce foyer? C'est la maison de l'enfance à Narbonne.
Alors Louis, en fait, avait un TDAH. Donc en fait, il a toujours été scolarisé en ITEP. Parce qu'il ne pouvait pas avoir une scolarité classique.
C'est un trouble de l'attention
avec
ou sans hyperactivité.
Et l'ITEP, c'est un internat. Il dormait 3 soirs. À l'internat et les autres soirs à la maison.
Alors oui, ça a dépendu des périodes, mais en effet, ses parents n'étaient pas démissionnaires. Ses parents ont toujours accompagné Louis. Cette question de la ZE s'est posée quand en fait on avait à l'ITEP, en fait, ça se passait plus très bien. On a cherché une structure intermédiaire. L'État ne nous a pas accompagnés. Et en fait, la ZE a été la solution pour Louis, pour qu'il soit accompagné à ce moment-là.
Mais il avait donc porté plainte, si on comprend bien, pour des violences.
Oui.
Alors, semble-t-il sans lien avec ces jeunes, précisément. Mais cette plainte, son père n'était pas au courant? Que s'est-il passé?
En fait, le 11 mai, et je l'ai appris, en fait, là, par des journalistes qui ont fait leur travail, et ma sœur aussi, qu'en effet, Louis avait déposé plainte le 11 mai, déjà pour coups et blessures. Ensuite, le 12 juin, on a une vidéo qui a circulé. Par contre, c'est un, en effet, des présumé assassin de Louis qu'il avait publié sur son compte Instagram où il était molesté. Il prenait un chaos, cette vidéo a circulé.
À ce moment-là, Louis s'est réfugié dans la brigade de gendarmerie.
Oui, tout à fait.
Et il n'a pas porté plainte.
Non.
Malgré l'insistance des gendarmes.
Alors ça, je ne peux pas vous dire, je crois, sans dire de bêtises, qu'il devait aller porter plainte le mardi
suivant.
Mais pourquoi? Est-ce qu'il y avait un contentieux? Vous en savez un petit peu plus sur ce qui se passait entre ces jeunes gens.
Il était victime de harcèlement.
Et Louis, ou
c'est ce qu'on commence à comprendre. En fait, on est un peu démunis, nous, parce qu'on ne dit pas grand-chose. Mais c'est ce qu'on commence à comprendre. C'est qu'en fait, Louis aurait été le bouc émissaire de cette bande. Ils sont très nombreux, ils sont une vingtaine ou une trentaine.
Qui cette bande?
Je peux pas vous
certains
dire.
Certains sont membres de, oui. de la zone. En fait, étaient dans cette maison
certains,
de l'enfance également.
Une partie. Une partie.
Mais pas dans la même structure que
non,
lui.
Non, pas dans la même structure que Louis.
C'est comme ça que c'était connu. En
exactement.
Fait.
Certains auraient été à l'ITEP avec, avec Louis.
À l'internat. Ouais.
Exactement.
Donc c'était quoi, le bouc émissaire d'une bande de
c'est
jeunes.
C'est ce qu'on commence à découvrir avec les
ce
vidéos.
Sur quoi les enquêteurs travaillent. Parce qu'on n'a pas de mobile caractérisé pour l'instant. On n'a pas de mobile d'ordre racial. Ça, c'est dit par le procureur.
Bien sûr.
Mais on a préméditation retenue. Et effectivement, cette notion
ça veut
de.
Dire, attendez, ça veut dire quoi, pas de mobile d'ordre racial? Pourquoi est-ce que ça a été écarté par le procureur? Pourquoi? Qu'est-ce qui était évoqué éventuellement?
Il pouvait y avoir des affrontements entre communautés, entre
absolument
et ce n'est pas du tout le cas.
Absolument.
Ce sont des jeunes du même âge. Et les cinq personnes qui sont en détention provisoire aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, elles sont âgées de 17 à 19 ans et ce sont, du coup, c'est ce que remontent les enquêteurs,
c'est pas,
les connaissances.
Pardon, mais pour bien comprendre,
oui.
C'est-à-dire que le procureur a dit... Ne commencez pas à fantasmer sur un éventuel meurtre anti-blanc, quoi. C'est ça, quand on a publié
c'est
les...
aussi, à mon avis, pour se prémunir de toute récupération politique.
Mais d'accord. Ce qu'on comprend pas, c'est que Louis a porté plainte. Il est mineur, hein, Louis. Hein.
Oui.
Son père n'était pas au courant.
Oui. Sa maman non plus.
Sa maman non plus. La structure,
il y a des questions qui se posent.
La zone n'était pas au courant. Donc là aussi, on se pose encore des questions sur.
Oui, des dysfonctionnements ou pas.
Bah oui.
Et ça, il va
donc,
falloir les éclaircir.
Un mineur qui porte plainte.
En toute logique, les parents, de manière relativement rapide, sous 48 heures, doivent être prévenus.
Oui, il avait même un bon rapport avec sa famille.
Excellent rapport.
Échanger sur comment ça a évolué pour lui.
Bien sûr. Après, je pense qu'il a peut-être pas osé nous parler.
C'est possible.
Moi, je me fais vraiment le porte-voix de ma sœur. Bien sûr qu'on a d'excellents rapports avec Louis. Je pense que l'ASE était au courant, en tout cas à minima pour le 11.
Mais ne vous a pas informé.
Pardon, vous êtes voilà, sa tante, vous étiez sa tante et sa marraine.
Je suis
vous correspondiez avec lui,
le dernier week-end, juste avant son décès, il était dans le Var avec sa maman, avec sa grand-mère aussi. Oui, bien sûr qu'on échangeait, mais c'est vrai que je pense qu'il n'a pas osé nous en parler.
Et vous dites, finalement, Louis n'a pas été protégé par ceux qui devaient le protéger, à savoir ce foyer qu'il accueillait.
Je ne comprends pas comment moi, aujourd'hui, je dois dire à ma sœur que le 11 mai, son fils a déposé plainte. Comment c'est possible que ce soit à moi de lui dire?
Alors, c'est pas une plainte. C'est pas une plainte officielle. C'est un...
Si, le 11 mai.
Elle est notifiée, la plainte?
Le 11 mai, elle est notifiée. Oui.
Le 12 juin, non. Mais le 12 mai,
non. Non.
Le 11 mai, oui. Le 12 juin, non.
Il y a un doute. Est-ce que c'est plainte, c'est signalement?
Non.
Est-ce que c'est inscrit?
Non, absolument pas. C'est une plainte qui a été déposée le 11 mai, mais qui ne met pas de lien direct. Il se plaint de violence, mais on ne sait pas si c'est violence.
Exactement.
Les auteurs présumés, ce sont ceux qui ont conduit à son lynchage, ou si ce sont d'autres jeunes. Et ça, c'est aussi les services d'enquête qui vont le déterminer.
Tout à fait.
Nous sommes avec David Beauvois, qui est militant pour les droits des enfants. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour en parler, notamment ce qui se passe dans ces aides sociales à l'enfance, dans ces maisons, dans ces foyers. Vous êtes délégué général de la Fédération des aides de Pape Repère, c'est ça? Je pense bien. Ça paraît effarant, en fait. On a l'impression qu'on a laissé ce jeune, finalement, entre les mains de ses bourreaux. Il avait porté plainte. Personne n'a vu venir les choses.
Oui, bien sûr. Bon, déjà, je voudrais commencer, évidemment, par présenter mes condoléances déjà à vous, madame, mais à toute la famille de Louis. C'est encore un drame qui a lieu au centre de l'aide sociale à l'enfance. En réalité, comme il peut en arriver de plus en plus aussi ces dernières années, ou en tout cas, comme on arrive à malheureusement les documenter de plus en plus. Alors plusieurs dysfonctionnements aussi peuvent éclairer un petit peu ce drame. D'une part, alors vous parliez de les avoir laissés avec ses bourreaux. Effectivement, en fait, aujourd'hui déjà, on se rend compte au sein de l'aide sociale à l'enfance qu'on a une crise complètement majeure du nombre de professionnels pour encadrer les jeunes. Que ce soit en maison d'enfance, que ce soit en foyer, que ce soit les familles d'accueil. Aujourd'hui, il y a eu une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance, justement, qui soulignait, qui a été votée à l'unanimité, qui soulignait que on manque de 30 000 professionnels pour encadrer les jeunes. C'est déjà une réponse. Oui. Pourquoi est-ce que la famille n'a pas été prévenue de cette plainte le 11 mai? Si ce n'est parce que les professionnels sont soit pas formés, puisqu'il faut savoir que l'aide sociale à l'enfance, c'est aussi le seul cadre dans lequel il n'y a ni taux ni normes d'encadrement, c'est-à-dire que vous pouvez être embauché à l'aide sociale à l'enfance sans aucun diplôme pour encadrer des jeunes et vous pouvez être un éducateur pour 30, 40, 50 enfants. Il n'y a aucune règle, sauf en pouponnière, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas les pouponnières qui le concernent.
C'est ce que le père de Louis dénonçait ce matin dans l'entretien accordé à BFM TV.
De moi-même, j'ai été voir le foyer pour comprendre. Quand j'ai déposé la fleur à mon fils au chantier, j'en ai profité pour voir le foyer. Tout ce qu'ils ont pu me dire, c'est qu'ils ne sont pas assez pour eux, pour ne pas les laisser sortir, quoi. C'est pas normal.
Mais attendez, vous dites ils ne sont pas assez nombreux ou parfois ils s'en fichent complètement de ce qui se passe?
Ou ils ne sont pas assez formés.
Oui, pas assez formés, mais voilà, pour savoir précisément.
Je dirais pas qu'ils s'en fichent. La preuve, je crois que dans cette situation, il y avait justement l'éducateur qui avait accompagné. Encore une fois, je parle sous le contrôle de tout le monde, pour ne pas dire de bêtises, mais l'éducateur a accompagné Louis pour lui permettre de porter plainte.
Le 11 mai.
Le 11 mai, effectivement. Bon, évidemment, les choses s'arrêtent là. Après, le 12 juin, pour le coup, si les éducateurs étaient informés de ces violences-là, il me semble, encore une fois, je parle sous votre contrôle, mais que l'article 40 aurait dû les contraindre à informer la justice. Évidemment, il y a des enjeux sur la peur des représailles aussi, le respect de sa parole, peut-être lui...
La peur des représailles, la peur pour Louis ou même pour les
pour
éducateurs?
Pour Louis, non, non.
Même
Louis,
pour des éducateurs.
Peut-être pour les éducateurs, je pense plutôt pour Louis. Là, en tout cas, ma parole portait plutôt pour Louis. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a aussi... à avoir en tête que ces jeunes, a priori, étaient aussi concernés par l'aide sociale à l'enfance dans diverses mesures. On n'a pas encore l'entièreté des faits.
Justement, je voudrais qu'on continue d'en parler avec Claude Hardid. J'imagine que vous le connaissez, les grands reporters, parce qu'il a enquêté sur l'aide sociale à l'enfance. Il a écrit « La fabrique du malheur », scandale au cœur de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Bonsoir Claude, merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir, merci.
On a donc un jeune de 17 ans qui était confié à une structure de l'aide sociale à l'enfance, cette maison d'enfants de Narbonne, qui avait porté plainte, les parents n'étaient pas au courant, qui a été lynché ou tué par une partie des jeunes qui étaient également dans cette structure. Que retenez-vous de cette affaire par rapport à ce que vous avez découvert dans votre enquête ?
C'est exactement la consternante continuité de ce que j'ai vécu pendant les 3 ans qui ont précédé l'écriture de mon livre. Il faut que vous sachiez, vous m'aviez invité très gentiment il y a 1 an sur le plateau là pour parler de la fabrique du malheur, et je crois déjà que je vous l'avais dit. Qu'est-ce qui se passe dans un foyer à partir de 21h30? Un foyer d'accueil de l'aide sociale à l'enfance qui est géré par les conseils départementaux. Il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus d'éducatrices entre 21h et 22h. Et ce sont des surveillants de nuit qui prennent le relais, et les surveillants de nuit sont là pour surveiller s'il n'y a pas un accident, s'il n'y a pas un incendie, s'il n'y a pas un intrus qui vient mettre le feu dans le foyer, etc. Premièrement. Deuxièmement, et c'est là où c'est terrible. C'est terrible pour le petit Louis et c'est terrible pour sa famille. Qu'est-ce qui se passe? C'est que personne, vous m'entendez, personne n'a le droit d'interdire à un gamin qu'il ait 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc., de sortir de son foyer. Les mineurs de moins de 15 ans, et je me bats depuis des années pour ça sur tous les plateaux de télé et de radio, les mineurs et ceux qui vivent au sein de l'aide sociale à l'enfance, là où ils devraient être protégés, les mineurs, personne ne peut les retenir. C'est-à-dire que si... un éducateur avant 21h30 ou un surveillant de nuit dit à un gamin « Non, tu ne sors pas », il n'a pas le droit, il n'a pas la légalité avec lui, c'est anti-légal. Et donc, un jour, je me suis retrouvé à Marseille avec un procureur de la République, j'étais invité sur le plateau de France 5 de C'est à vous, j'étais à côté de monsieur Nicolas Besson, qui est un formidable procureur. Et on parlait justement de ces sorties comme ça, de ces gamins, et notamment de gamines, qui allaient se prostituer, elles sortaient 23h, il y avait les proxos qui les attendaient dans leur voiture, elles montaient dans la voiture et elles revenaient 24h, 48h, 3 jours après avoir été massacrées, avoir fait 40 passes, avoir été détruites, elles revenaient avec des maladies sexuellement transmissibles. Et je dis au procureur de la République qui était à côté de moi, vous pouvez retrouver les images, je dis mais c'est pas pensable, pourquoi on ne leur interdit pas de sortir? On me dit, et là tout le monde me répond, mais comme les référents de l'ASE, les éducateurs de l'ASE, les juges pour enfants vous disent mais un foyer d'accueil n'est pas une prison et on ne peut pas leur interdire de sortir. Le droit de contention et le droit de rétention n'existent pas. Et même si un gamin sort, même si un surveillant de nuit, je l'ai vu moi ça, je l'ai vu de mes yeux vus, va chercher une gamine qui monte dans la bagnole d'un proxo, elle est en danger de mort. Si le court après qu'il chope le proxo, il est en tort. C'est ça qui est incroyable. Donc Louis, qu'est-ce qu'il fait? Il a rendez-vous avec ses futurs bourreaux, il tombe dans un guet-apens, mais normalement, dans n'importe quelle institution constituée, dans n'importe quelle famille classique, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dû dire à Louis, non, tu ne sors pas, tu es en danger, etc. Même si Louis, c'est un gamin qui visiblement avait des problèmes, des troubles du comportement, etc. Mais lui, il n'est responsable de rien. Ce sont les adultes autour qui doivent dire, on boucle ta chambre, tu ne sors pas, il est 23h,
etc. Mais ils n'ont pas le droit de le faire.
Et c'est ça qui... Et personne n'a le droit de le faire. Et c'est ça qui est terrible. On a beau... Moi, je me bats tout à l'heure, je ne sais pas quelle la personne qui a dit ça, il dit, on manque de 30 000 travailleurs sociaux. Mais c'est pas vrai. On manque de 100 000 travailleurs sociaux. Quand j'ai écrit le livre, il y a un an de ça, quand il a été publié il y a un an, on manquait de 80 000 travailleurs sociaux. Aujourd'hui, toutes les données qui me remontent du terrain, d'éducateurs, de puéricultrices, d'assistants puéricultrices, de psy, de médecin, tout le monde, d'assistante sociale, tout le monde me dit, mais on n'est plus à 80 000, on est à 100 000. Et c'est là où on engage, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais on engage le premier venu. C'est-à-dire qu'on engage des gens qui devraient normalement s'occuper de colonies de vacances. On a engagé dans des centres départementaux et c'est marqué dans le rapport de l'ASE. C'est marqué dans le rapport. On engage dans les pouponnières des femmes de ménage pour s'occuper des bébés parce qu'on n'a pas assez de péricultrices et les enfants sont terrorisés. Donc on est dans une situation qui est catastrophique, qui est infiniment plus grave que celle que j'ai pu décrire il y a un an. Et quand moi je me retrouve face aux politiques, et vous le savez, je vous l'ai dit sur le plateau, et je ne cesse de le répéter, et c'est un combat, là je suis animé par la colère, mais en même temps je suis journaliste, il faut que je garde mes nerfs, etc. Moi je dis quoi? Je dis mais c'est pas un problème de moyens. Les moyens, ils les ont à l'ASE, dans les départements. L'éducation nationale manque de moyens, l'hôpital manque de moyens, la justice manque de moyens, la police manque de moyens, tout manque de moyens. On manque de courage politique. Tout le monde m'a parlé dans mon livre. Tout le monde. Les familles, les enfants, les cadres. Il y a des gens qui ont pris des risques insensés au sein de l'aide sociale à l'enfance pour me raconter comment ils se trouvaient confrontés à des problèmes qui étaient dramatiques. Les seuls qui ne m'ont jamais parlé, ce sont les politiques parce qu'ils ont peur que ça leur retombe justement sur le coin de la gueule, etc. Alors,
justement, Claude, je voudrais rebondir sur ce que vous dites avec Marie et Julie Marteau, la tante de Louis. On a entendu le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, dire « pas de récupération politique, s'il vous plaît ». D'ailleurs, le terme d'ensauvagement que vous avez utilisé tout à l'heure, il ne veut pas l'utiliser, il ne le reprend pas à son compte.
Je vais répéter ce que j'ai dit ce matin sur le plateau de CNews. C'est-à-dire que M. Nunez doit avoir la vidéo en sa possession, j'imagine. Moi, je les ai sur mon téléphone, je l'invite à les visionner avec moi et on verra quel terme il veut qu'on utilise. Parce que ces vidéos-là, je souhaite à personne de les voir, encore une fois.
Et la récupération politique?
Mais il n'y a pas de récupération politique, que tous les politiques se saisissent.
Mais qu'est-ce que vous dénoncez, le fait qu'ils ne s'en saisissent pas, justement?
Exactement.
Ou qu'il y en ait qui s'en saisissent et pas d'autres, c'est quoi?
Exactement. Il faut que tout le monde s'en saisisse.
C'est
l'affaire de tous les Français.
Je voudrais préciser que vous travaillez avec un député, vous êtes collaboratrice du député RN du Var, Philippe Lothiot.
Tout à fait.
Et à la mairie de Sainte-Maxime, c'est ça?
Oui.
Vous avez un emploi à la mairie de Sainte-Maxime?
Non, je suis élue.
Élue à la mairie de Sainte-Maxime, voilà.
Est-ce que vous voulez faire de ce terrible, ce qui est arrivé à Louis, un enjeu politique?
Absolument pas. C'est pas un enjeu politique, ça m'arrive à moi. Enfin, ça arrive à ma sœur. Ouais. On n'a pas choisi ça à nous. Donc, il n'y a pas de politique là-dedans. C'est aux politiques de se saisir de ça. Il y en a ras-le-bol de parler de récupération politique. En fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a fait le choix de diffuser ces vidéos. Ça vous concerne tous. Et ça concerne tous les politiques et ça concerne tous les Français.
Donc vous attendez des solutions?
On attend des solutions, on attend que les juges et que la justice fassent son travail. Et nous, on va parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français ou de familles de victimes qui ont peur parfois de parler. Parce que justement, qu'on les accuse de récupération politique, qu'on les accuse de certaines choses. Ils ont peur. Nous, on n'a pas peur.
Mais dimanche, quand vous avez vu sur les réseaux sociaux, certains montraient les visages des jeunes en disant, voyez, ce sont issus de l'immigration qui sont tombés sur un petit blanc.
Mais on n'a jamais parlé de...
Non, mais je vous dis ça, vous le réfutez complètement.
Mais on le réfute complètement. Mais nous, on n'a jamais parlé du profil de ces jeunes.
Éric Zemmour a fait un lien avec l'immigration.
Mais moi, je ne connais pas Éric Zemmour personnellement. Moi, je connais Louis. Voilà. Et ma parole, elle est pour Louis.
Et vous voulez justice pour Louis, quoi?
Je veux justice pour Louis.
Est-ce que vous voulez que tous les politiques se positionnent? Parce qu'il n'y a pas que les politiques de droite et d'extrême droite qui doivent se positionner sur cette question.
Attendez, mais il y a un moment, on va être sérieux dans ce pays? Est-ce qu'on va être sérieux? Est-ce qu'on peut avoir visionné ces vidéos? Moi, je vais vous le dire, ma sœur, elle s'en remettra jamais. Ma famille, elle s'en remettra jamais. Moi, je dormirai plus jamais comme j'ai dormi. Je les ai vus 20, 30 fois, 40 fois. Ils l'ont massacré. Est-ce qu'un coup de poing dans la tête d'un enfant, c'est politique? C'est une récupération politique? On parle de quoi?
Bien sûr.
On parle de quoi? Il faut Excusez-moi, mais la colère, on va rester digne. Mais maintenant, ça suffit.
Dimanche, les responsables politiques sont invités à la marche?
Tous, je les ai tous invités.
Vous avez tous invités?
Tous bords politiques, ils sont les bienvenus.
C'est-à-dire nationaux, locaux?
Peu importe, tout le monde, tous les Français.
Est-ce que la famille, le père de Louis, ou peut-être vous avez été contacté par le gouvernement? Vous avez...
Absolument pas.
Vous n'avez pas eu de coup de fil du ministre de l'Intérieur?
Non, aucun coup de fil, aucun coup de fil. Et ça vous choque, ça vous blesse?
Il y a des indignations variables, c'est ce que...
Mais je comprends pas. Encore une fois, hein, c'est vrai que c'est très dur pour nous de nous exprimer, mais on le fait dignement. Encore une fois, ils ont les vidéos, ils les ont vues. Est-ce que vous les avez vues?
Difficilement.
Voilà. À eux de faire leur boulot.
Le père de Louis n'a pas voulu voir ces vidéos.
Non, ma sœur non plus, ma mère non plus. Ma petite sœur les a vues avec moi. Moi, je sais plus quoi leur dire. Ils les ont vues.
Aujourd'hui...
Mais alors, à qui vous en voulez le plus, pardon? Aux politiques? À l'ASE? À qui? À ces jeunes?
Honnêtement, aujourd'hui, la seule chose, on n'est pas dans la haine. On n'est pas dans la haine, nous. On veut juste
que ça se reproduise. Quoi,
exactement.
Pour d'autres
jeunes. Exactement. Et en fait, on veut juste dire que ça suffit. On comprend pas comment, si nous, médiatiquement, on lance pas la machine, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas alors qu'au plus haut sommet de l'État, ils le savent? Comment ça se fait que c'est à nous, la famille? Encore une fois, on est dans le chagrin. C'est à nous de venir sur les plateaux télé, là.
Pour en parler.
C'est à nous. C'est difficile pour nous. Et c'est à nous de le faire. Comment c'est possible?
Ces jeunes, là, ils sont où?
Ils sont en détention provisoire.
On les a tous arrêtés.
Oui.
Il y a des mineurs et des majeurs.
Il y a trois
majeurs.
Mineurs et il y a deux majeurs. Ils sont âgés de 17 à 19 ans. Il y en a trois qui sont connus de l'ASE, mais aucun n'était placé, je l'ai dit, dans la même structure que Louis. Leur casier judiciaire, il est vierge de toute condamnation, mais ils étaient connus des services de police pour certains. Il y en a qui avaient séjourné dans des centres éducatifs fermés. Voilà, je rappelle qu'il n'y a pas de mobile d'ordre racial et qu'il y a une préméditation qui est retenue par le procureur de Narbonne.
On ne connaît pas encore
le mobile est pour l'instant inconnu,
oui, le
mais le procureur parle effectivement de guet-apens et tous les mots ont un sens.
Que risque-t-il? Pas la même chose, puisque en fonction de leur âge, ils ne seront pas jugés de la même façon.
Si la qualification d'assassinat est retenue, et ça va prendre plusieurs mois, les majeurs, ils encourent la perpétuité, et les mineurs, ils encourent 20 ans maximum, sauf si leur excuse de minorité est écartée au moment du jugement.
Vous voulez qu'on enlève l'excuse de minorité?
Bien sûr, mais on attend que ça. En fait, il faut la faire sauter. C'est évidemment le message qu'on porte, et évidemment qu'on demande la perpétuité. Voilà.
Pour les mineurs comme pour les majeurs.
Mais bien sûr, mais il n'y a pas d'excuse
mais
de minorité.
Mais David Beauvois, vous êtes militant pour les droits de l'enfant, vous connaissez ces structures aussi. Ça peut malheureusement se reproduire si on ne fait rien, cette violence?
Oui, je pense que la solution, elle n'est pas sur la suite à donner. Évidemment qu'il y a des sanctions, bien sûr, il y a des sanctions à avoir. La solution aujourd'hui, elle est en amont. De ces dysfonctionnements-là. Elle est à donner sur la prévention, évidemment, faite auprès des enfants, et je le précise, mais aujourd'hui, le budget... Monsieur Hardy disait tout à l'heure qu'il y avait les moyens, mais pas le courage politique. Évidemment qu'il n'y a aucun courage politique sur l'aide sociale à l'enfance. Le gouvernement le montre encore là, avec le projet de loi qui devait être déposé en février, puis finalement non, puis finalement oui. Et donc là, on a un projet de loi qui arrive en juillet, qui est un petit peu en train d'être... vidé de sa substance, puisqu'ils y ajoutent d'autres mesures qui n'ont rien à voir avec l'aide sociale à l'enfance. Enfin, en tout cas, ils appellent ça la refondation. Là où on sait que ça n'a de refondation que le nom, puisque évidemment il n'y a pas ça. Et je voudrais juste dire que aujourd'hui, on sait qu'un enfant qui est victime de violence dans l'enfance, et ces enfants-là avaient aussi des signalements pour l'aide sociale à l'enfance, a un risque de 3 à 5 fois supérieur à la moyenne générale de reproduire des violences à l'âge adolescent ou adulte. C'est absolument dramatique. Et le fait de vider les moyens et vider la possibilité pour les structures de faire de la prévention, c'est absolument dramatique.